Bonjour à toutes, bonjour à tous. Que la paix et l'amour de Dieu vous accompagnent. Nous lirons ce matin dans l'Épître aux Romains au chapitre 15, les versets 4 à 9. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Selon un récent sondage IFOP paru dans Réforme, 30% des protestants ne lisent jamais la Bible, 50% plusieurs fois par an, 6% une fois par semaine et 13% chaque jour. Alors, posons-nous la question. La Bible peut-elle vraiment nous être utile dans notre vie de tous les jours? Pour Paul, la réponse est oui. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, dit-il. Le mot instruction en grec didascalia est utilisé 21 fois dans le Nouveau Testament. Il a été traduit par précepte dans Matthieu 15, par enseignement dans Romains 12 ou encore par doctrine dans Éphésiens 4. Il désigne donc l'action d'enrichir, de former l'esprit, de développer la personnalité. Paul nous rappelle que le Saint-Esprit utilise les Écritures pour nous éduquer, nous guider, nourrir et édifier notre foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, nous dit Romains 10, verset 17. Voyons comment le Saint-Esprit utilise la Bible pour notre croissance spirituelle. D'abord, il affirme que la Bible contient la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, nous dit 1 Timothée chapitre 3. C'est cette vérité qui lui confère une capacité d'action dans notre quotidien. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, nous dit Ésaïe 55. Même affirmation dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais comme elle l'est véritablement, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Il utilise les témoignages et les expériences de foi des personnages bibliques et du peuple élu. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, écrit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10, verset 11. Même son de cloche dans Hébreux 12, versets 1 et 2. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Les expériences de tous ces héros de la foi sont là pour nous encourager. Sachant qu'ils étaient de la même nature que nous dit Jacques au chapitre 5, verset 17. Il emploie les Écritures pour sonder et éclairer notre être intérieur, car le Saint-Esprit sonde tout, nous dit 1 Corinthiens 2, même les profondeurs de Dieu. Et Hébreux 4, verset 12 nous rappelle que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quant à Jacques, il la compare à un miroir. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. On trouve ça dans Jacques 1, versets 23 et 24. Comme le miroir nous permet de découvrir notre visage naturel, la Bible est ce miroir qui nous révèle ce que nous sommes au plus profond de notre être. Enfin, le Saint-Esprit compare les Écritures à de la semence. Cette comparaison est très présente dans les trois évangiles synoptiques, Matthieu 13, Marc 4 et Luc 8. La semence renferme en elle un potentiel exceptionnel et puissant, qui ne demande qu'à se manifester, quand l'environnement nécessaire à son développement est là. Que l'on dorme ou que l'on veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'on sache comment, nous dit Marc, Jésus dans Marc 4. Pierre, dans sa première lettre au chapitre 1, au verset 23, reprend cette image de la semence en y apportant un éclairage complémentaire. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Le terme grec traduit par « régénérer » évoque l'idée de renaissance. Ceci nous rappelle l'entretien de Jésus avec Nicodème dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Pour conclure, à la lumière de cette méditation, voici quelques affirmations tirées du psaume 119. « Je serre ta parole dans mon cœur » afin de ne pas pécher contre toi. Verset 11. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Verset 89. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Verset 105. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Verset 130. Et enfin, je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Verset 162. Que Dieu vous bénisse.